Bienvenue. Aujourd'hui, on remonte le temps. Direction Paris, 1871.
Ah, Paris 71, une ville qui sort à peine d'un siège terrible.
Oui, et au cœur d'une France vaincue, divisée. C'est là qu'émerge un truc assez fou, non ? La Commune de Paris.
Exactement. Une période très courte, 72 jours à peine, mais d'une intensité incroyable.
Du 18 mars au 28 mai, en gros. Paris qui dit non au gouvernement d'Adolphe Thiers et qui essaye d'inventer autre chose, une sorte de démocratie directe.
C'est ça. Et pour bien comprendre, il faut voir le contexte. On est juste après la défaite contre la Prusse. Paris a souffert le martyre pendant le siège.
Et il y a cette opposition très forte.
Oui, énorme. D'un côté, ce Paris républicain, qu'on disait ultra-rouge, très ouvrier, qui veut des changements sociaux profonds. Et de l'autre, une Assemblée nationale élue par la France rurale et qui est majoritairement monarchiste, conservatrice.
Deux Frances qui ne se comprennent plus.
Complètement. Les Parisiens, ils rejettent la capitulation signée par ce gouvernement et ils s'en méfient terriblement, surtout de Thiers. Et il y a la garde nationale aussi, cette milice citoyenne.
Ah oui, importante la garde nationale.
Cruciale. Elle a défendu la ville et elle est vue comme le rempart républicain face à Versailles.
Bon, alors notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre comment ça a démarré, ce qu'ils ont tenté de faire, pourquoi ça s'est terminé si tragiquement et ce qu'il en reste. On y va ?
Allons-y.
Alors le déclencheur, c'est le 18 mars. Thiers qui décide d'envoyer l'armée. Pour faire quoi au juste ?
Pour récupérer les canons de la garde nationale. Ils étaient postés sur les hauteurs de Paris, notamment Montmartre et Belleville.
Des canons qui appartenaient à qui d'ailleurs ?
C'est ça le truc. Hein. Ils avaient des quais financés par souscription populaire, par les Parisiens eux-mêmes, pour défendre la ville pendant le siège. C'était leurs canons.
D'accord. Et donc l'armée arrive ?
Et là, la foule, surtout des femmes d'ailleurs au début, s'interpose, pacifiquement. Elle entoure les soldats.
Il se passe ce truc incroyable.
Oui, la fraternisation. Les soldats refusent d'obéir à l'ordre de tirer sur la foule. Certains mettent la crosse en l'air. C'est un moment assez unique.
Mais ça dérape quand même.
Oui, malheureusement. Dans la confusion, deux généraux sont arrêtés par la foule en colère. Le comte, qui avait donné l'ordre de tirer, et Clément Thomas, un général qui avait une très mauvaise réputation liée à la répression de juin 48.
Et ils sont exécutés.
Oui, sommairement par une foule devenue incontrôlable. C'est un des actes les plus sombres de cette journée. Suite à ça, Thiers et le gouvernement paniquent et fuient Paris pour s'installer à Versailles.
Et Paris se retrouve seul.
Exactement. Le pouvoir tombe entre les mains du comité central de la garde nationale, qui, assez vite, décide d'organiser des élections municipales pour légitimer la situation.
C'est l'élection du conseil de la commune, le 26 mars. Qui en trouve dans ce conseil ?
C'est vraiment un reflet du Paris insurgé. Beaucoup d'ouvriers, d'artisans, d'employés, mais aussi des professions libérales, des journalistes, des médecins, des gens issus des classes populaires et de la petite bourgeoisie républicaine et socialiste.
Et leurs idées, c'est quoi le projet ?
C'est une république démocratique et sociale. L'idée forte, c'est l'autonomie communale. Hein. Paris doit pouvoir s'administrer librement. Et puis, la démocratie directe. Les élus sont responsables devant leurs électeurs et révocables à tout moment. Ils parlent d'une ère nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique.
Expérimentale, le mot est lâché. Mais est-ce qu'ils sont tous d'accord entre eux ?
Ah non, pas du tout. C'est une des fragilités de la commune. Le conseil est très divisé. Il y a ce qu'on appelle la majorité, plutôt jacobin, héritier de 1793, partisan d'un pouvoir fort, centralisé, et les blanquistes, qui croient en l'action d'une avant-garde révolutionnaire.
Et en face ?
En face, la minorité, plutôt des socialistes internationalistes, proche de l'Association internationale des travailleurs, des proudhoniens, des radicaux. Eux sont plus attachés aux questions sociales, à l'autonomie, et sont plus méfiants vis-à-vis d'un pouvoir trop centralisé.
Des tensions qui vont éclater.
Oui, notamment avec la création, en mai, d'un comité de salut public. Un nom qui fait évidemment référence à la terreur de 1793 et qui divise profondément les communards. La minorité y voit un retour à une forme d'autoritarisme.
D'accord. Mais malgré tout ça, et alors que la menace de Versailles pèse de plus en plus, ils légifèrent énormément, non ? C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, l'activité est foisonnante, c'est vrai. Et certaines mesures sont incroyablement modernes pour l'époque.
La laïcité, par exemple.
Exactement. Dès le 2 avril, il décrète la séparation de l'Église et de l'État.
Bien avant la loi de 1905.
Tout à fait.
Avec suppression du budget des cultes et un projet d'école gratuite, laïque et obligatoire. Pour les filles comme pour les garçons, ce qui est aussi novateur.
Et sur le plan social ?
Là aussi, ça bougeait pas mal. On tente des trucs. On confie des ateliers abandonnés par leur patron aux coopératives ouvrières. C'est une ébauche d'autogestion.
On touche aux conditions de travail ?
Oui, interdiction du travail de nuit pour les boulangers, par exemple. On décrète un moratoire sur les loyers, sur les échéances commerciales, des mesures d'urgence pour soulager la population.
Et il y a cette mesure sur les salaires des élus, non ?
Oui, le traitement maximum des fonctionnaires et des élus de la commune est fixé à l'équivalent d'un salaire ouvrier. Une volonté d'égalité, de rompre avec les privilèges. On reconnaît aussi l'union libre, on interdit la prostitution. Et les femmes dans tout ça ? On a mentionné leur rôle le 18 mars ?
Elles sont omniprésentes et très actives. Il y a des figures connues comme Louise Michel, l'institutrice anarchiste, Nathalie Lemel, une relieuse internationaliste, ou Elisabeth Dimitrieff, envoyée par Marx. Elle crée l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés.
Elle revendique
énormément l'égalité des salaires, une première reconnaissance est faite pour les institutrices, le droit au travail, le droit au divorce. Elles tiennent des clubs, organisent l'aide sociale et beaucoup participent au combat, sur les barricades. Leur rôle est absolument central.
Il y a aussi des actes symboliques forts.
Oui, comme la démolition de la colonne Vendôme, place Vendôme. Elle était vue comme le symbole du militarisme, du despotisme impérial de Napoléon Ier. C'était un geste politique fort, même s'il a été controversé.
Mais cette effervescence, cette tentative d'inventer autre chose, elle va être brutalement interrompue.
Oui, le temps a manqué cruellement. Pendant que Paris expérimente, à Versailles, Thiers réorganise l'armée. Il obtient même de Bismarck, le chancelier prussien, la libération anticipée de dizaines de milliers de soldats français prisonniers pour renforcer ses troupes.
L'offensive est lancée quand ?
L'assaut final commence le 21 mai. Les troupes versaillaises réussissent à entrer dans Paris par une porte mal défendue. C'est le début de ce qu'on appelle la semaine sanglante.
Une semaine.
Terrible. Le mot est faible. Ça va être une semaine de combats de rue d'une violence inouïe. Barricade après barricade, Paris en compte près de 900. Mais surtout, la répression versaillaise est méthodique, implacable et d'une brutalité extrême.
C'est-à-dire
qu'on ne fait pas ou peu de prisonniers. On fusille en masse, sur simple dénonciation, parfois juste pour l'allure, les mains sales, une blouse d'ouvrier. Les exécutions sommaires sont légion. Les chiffres sont difficiles à établir précisément, mais on estime qu'entre 10 000 et 20 000 communards, voire plus, ont été tués pendant cette semaine. Un véritable bain de sang.
Et Paris brûle.
Oui, des monuments emblématiques partent en fumée. L'hôtel de ville, le palais des Tuileries, la préfecture de police, le palais de justice. C'est dû en partie au combat, aux obus versaillais, mais aussi à des incendies volontaires allumés par des communards acculés.
Pourquoi ? Geste de désespoir ?
Oui, un geste de défense désespéré, ralentir l'ennemi, mais aussi un geste symbolique très fort, le refus de laisser leur Paris, leur ville insurgée, intacte, aux mains des vainqueurs. C'est la politique de la terre brûlée appliquée à la capitale.
Et il y a aussi l'exécution des otages par les communards.
Oui, c'est un autre épisode tragique. Face au massacre versaillais et en application tardive et désordonnée d'un décret des otages voté en avril, certains communards exécutent des otages qu'ils détenaient, principalement des gendarmes, des religieux, dont l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Environ 85 à 100 personnes au total. C'est évidemment condamnable, mais à replacer dans ce contexte de violence extrême et de réponse aux exécutions sommaires massives des Versaillais.
Le 28 mai, les derniers combats cessent. Mais la répression, elle, continue.
Ah oui, elle ne fait que changer de forme. Elle devient judiciaire. On procède à des arrestations massives, environ 36 000 personnes. Des conseils de guerre sont mis en place, qui jugent à la chaîne.
Les condamnations sont lourdes.
Très lourdes. Il y a des condamnations à mort, même si peu seront exécutés, aux travaux forcés, à la prison. Et surtout, il y a la déportation. Une loi de 1872 organise l'envoi de milliers de communards, environ 3800, en Nouvelle-Calédonie.
Au bagne.
Oui, dans des conditions terribles, sur l'île des Pins ou au bagne de l'île Nouméa. Beaucoup y mourront. Sans compter les milliers d'autres qui choisissent l'exive pour échapper à la répression, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Paris est durablement marqué. Vidé d'une partie de sa force vive ouvrière et militante.
Quand on regarde ça avec le recul, 72 jours, c'est si court.
C'est ça qui est fascinant, cette fulgurance. Une effervescence incroyable, une créativité politique et sociale débordante, une tentative d'inventer autre chose. Et puis, un écrasement d'une brutalité presque sans équivalent dans l'histoire française du 19e siècle. C'est ce contraste terrible entre l'espoir immense et la violence de la fin qui marque si profondément.
Et l'héritage de tout ça, qu'est-ce qu'il en reste ?
Il est immense et complexe. La Commune devient immédiatement une référence majeure, un mythe fondateur pour tout mouvement ouvrier international. pour les socialistes, les communistes, les anarchistes. Elle est vue comme une première tentative, héroïque et tragique, de gouvernement des travailleurs par eux-mêmes. L'aurore d'un monde nouveau pour certains, la première dictature du prolétariat pour Marx, une grande fête révolutionnaire pour d'autres.
Une source d'inspiration, donc.
Oui, pour de nombreuses révolutions ou tentatives révolutionnaires par la suite, en Russie, en Espagne. Mais elle a aussi nourri une légende noire, construite par les vainqueurs, la présentant comme un épisode de chaos, de destruction et de sauvagerie. L'historiographie a longtemps oscillé entre ces deux visions.
C'est vrai que l'image reste forte.
Très forte. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large. Au-delà du contexte précis de 1871, qu'est-ce qui résonne encore aujourd'hui? Ces idées de démocratie plus directe, de participation citoyenne, d'autonomie locale, de recherche d'une plus grande justice sociale, d'émancipation. Est-ce que ces idéaux portés, même brièvement et dans le chaos, par la Commune, ont encore une pertinence, une actualité dans nos sociétés?
La question reste ouverte.
Elle reste ouverte, oui. Et c'est peut-être ça aussi, l'héritage vivant de la Commune. Une interrogation permanente sur ce que pourrait être une cité plus juste et plus démocratique.